Bonsoir, de retour Nani Tetelani pour vous présenter ce Flash Info. Il est 19h en temps universel, 20h à Difa et à Niamey, c'est au Niger. En République centrafricaine, le parquet a annoncé avoir placé en détention un employé européen d'une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis. Il est soupçonné de constituer une menace pour la sécurité de l'État et de chercher à inciter à la révolte contre les forces de sécurité. Dans une déclaration lue à la télévision d'État vendredi, le procureur général de la capitale Bangui a indiqué que Martin Joseph Figueira possédait des passeports portugais et belges et qu'il avait été placé en détention le 25 mai après l'ouverture d'une enquête. Il a accusé Figueira d'être en contact avec des groupes armés. Selon le procureur, Figueira travaillait pour l'ONG de santé publique FHI 360. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle les partis politiques dans son pays à travailler ensemble pour le bien du pays, alors que les résultats définitifs des élections de la semaine dernière ont confirmé que son Congrès national africain a perdu sa majorité pour la première fois. Les Sud-Africains attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences et qu'ils agissent ensemble pour le bien de tous. C'est ce que les Sud-Africains ont dit, a déclaré M. Ramaphosa après l'annonce des résultats définitifs par la commission électorale ce dimanche. Il a qualifié l'élection de victoire pour la démocratie sud-africaine. Les partis politiques ont maintenant 2 semaines pour trouver un accord avant que le nouveau Parlement ne siège pour choisir un président qui sera probablement toujours issu de l'ANC puisqu'il reste la force la plus importante. Ce résultat annoncé dimanche est la pire performance électorale de l'ANC, le plus ancien mouvement de libération de l'Afrique, autrefois dirigé par Nelson Mandela depuis son arrivée au pouvoir il y a 30 ans, mettant fin à la domination de la majorité, la minorité blanche. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se dit surpris et déçu dans une interview diffusée ce dimanche par le fait que l'administration américaine ne soutienne pas des sanctions contre la Cour pénale internationale dont le procureur veut un mandat d'arrêt contre lui. Les États-Unis avaient affirmé qu'ils appuieraient la proposition de loi sur des sanctions, a dit le premier ministre israélien dans un entretien avec un média mercredi, soit avant que M. Biden n'annonce un plan de fin des hostilités à Gaza. La Maison-Blanche a estimé cette semaine que sanctionner cette organisation ne serait pas la bonne approche, même si le président Joe Biden avait jugé scandaleuse la demande de mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
L'ancien président américain Donald Trump a créé un compte TikTok, publiant sa première vidéo sur le réseau social ultra populaire qu'il avait tenté d'interdire quand il était président. Dans une vidéo de 13 secondes postée samedi soir, on voit le candidat républicain à la présidentielle de novembre assister à un combat de MMA à Newark, dans le New Jersey, dans le nord-est des États-Unis. En 2020, Donald Trump avait cherché à faire interdire TikTok par décret, invoquant en particulier des menaces pour la sécurité nationale. Les Maldives vont interdire l'entrée de leur territoire aux Israéliens, a annoncé ce dimanche le bureau du président en annonçant une action nationale en solidarité avec la Palestine. Le chef de l'État de cet archipel de l'océan Indien, Mohamed Mouzou, a décidé d'imposer une interdiction des passeports israéliens, a déclaré donc son porte-parole sans donner de détails sur la date d'entrée en vigueur de l'interdiction. Le président Mouzou affirme que les Maldiviens sont solidaires de la Palestine. En Inde, au moins 33 agents électoraux sont morts à cause de la chaleur le dernier jour des élections nationales hier dans le seul état d'Uttar Pradesh dans le nord, selon un responsable électoral, alors qu'une partie de l'Inde subit une succession de vagues de chaleur exceptionnelles. Une compensation financière de 1,5 million de roupies, soit 18 000 dollars, sera versée aux familles des victimes. C'est la fin de ce bulletin.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous, Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Les matriarcats et la déesse, c'est notre sujet de ce soir. Nous explorons comment certaines cultures matriarcales ont intégré la figure de la déesse dans leur structure sociale et religieuse. Nous allons découvrir comment ces sociétés honorent la féminité divine, quel rôle joue la déesse dans leur vie quotidienne et comment ces croyances influencent leurs pratiques sociales et leurs valeurs. Nous en parlons dans un instant avec nos invités à travers des exemples concrets. Frida Darmani, journaliste à Tunis, est avec nous. Bonsoir Frida.
Bonsoir Eric, je vous remercie de votre invitation à intervenir sur un sujet qui ne cesse d'être d'actualité. L'islam reconnaît-il les figures féminines importantes dans le contexte divin ou spirituel? Évidemment.
Le professeur Mohamed Mbodj de Manhattanville University à New York. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Merci encore une fois pour votre contribution dans le dialogue des religions.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des religions à Montréal, au Canada. Docteur Nathalie Nyamoya est avec nous. Bonsoir Nathalie.
Bonjour Eric Manirakiza, merci beaucoup pour ton invitation.
Et professeur Mbodj, comment l'idée de divinité féminine a-t-elle évolué à travers les siècles? Quels impacts cette évolution a-t-elle eu sur les sociétés concernées?
Alors évidemment, nous avons commencé par dire que les plus vieilles représentations entre guillemets religieuses, parce que nous n'en savons pas à 100% si vraiment c'était ça, mais il y a une forte chance, et la plupart des historiens pensent plutôt pour ça, sont des représentations religieuses de femmes. Et comment on en est arrivé à une sorte de représentation de la divinité avec un homme qui crée tout et qui n'a même pas besoin d'ailleurs de femmes pour créer le reste du monde? Il n'a qu'à parler, il n'a qu'à utiliser de l'argile de la terre glaise pour créer d'autres êtres humains. Donc à partir de ce moment, on peut constater qu'il y a une sorte de chute du pouvoir de la femme. Et l'idée de la divinité féminine donc a évolué, mais dans un sens négatif, disons. Et les hypothèses ne manquent pas. Certains disent qu'en réalité, c'est avec l'avènement de l'agriculture, il y a 10 000, 15 000, peut-être 20 000 ans, la domestication des animaux, et en particulier des animaux qui produisent du lait, qui est une représentation féminine, que ce soit les moutons, les chèvres, les vaches, etc., etc. Et il y a beaucoup de ces éléments que certains historiens combinent pour dire que la femme perd alors un peu ce pouvoir mystérieux qui est de donner la vie et de l'organiser. C'est-à-dire que la femme perd un tout petit peu son monopole, en quelque sorte. Et souvent même la base de son pouvoir, la biologie, va devenir non pas le symbole de son pouvoir, mais plutôt le symbole de sa faiblesse. Certains historiens pensent que c'est plutôt un peu plus tôt que ça, à l'apparition de la civilisation de la chasse et de la cueillette, surtout après des cycles de détérioration climatique, et où donc la recherche du gibier, la recherche de la substance devient très compliquée et devient très dangereuse, et en particulier les femmes, et surtout les femmes dont principalement le rôle est de porter des enfants, deviennent des sortes d'handicaps. Donc pour participer à certaines de ces actions qui deviennent, surtout la chasse, presque exclusivement masculines dans beaucoup de sociétés. Et à partir de ce moment-là, donc la femme va perdre de cette importance, de sa centralité dans la société. Et dans beaucoup de sociétés, finalement, pour nous rapprocher de l'ère actuelle, à peu près deux tiers, on peut dire que la militarisation de la survie et de l'expansion des sociétés place plus de pouvoir entre les mains des guerriers, souvent à cheval, mais pas toujours, ou à dos de chameau ou à dos d'éléphant. Et il est évident qu'on peut difficilement imaginer des femmes en état de grossesse être des cavalières ou des cornacs, etc. mais aussi des fabricants d'armes, comme les forgerons, qui subjuguent le pouvoir de la femme à celui de l'homme, qui lui est supérieur. Tant sur la biologie maintenant, la biologie de la femme est représentée comme étant une biologie faible. La religion, le Dieu suprême est un homme et même il n'a même pas besoin de femme. Et la justice est rendue par un juge suprême qui souvent est un homme. Donc on peut voir là ce recul et comme j'ai dit, que certains disent dater de la révolution agricole, de l'apparition de l'agriculture. D'autres disent que c'est en réalité lorsque nous sommes devenus très spécialisés dans la chasse au gros gibier que cette évolution se serait produite. D'ailleurs, il faut noter un tout petit peu ce qui est intéressant et qui constitue une piste de recherche toujours, disons, chaude, c'est que nos plus proches cousins dans la nature, qui sont les chimpanzés bonobos, sont toujours des sociétés matriarcales. Donc, ce sont des sociétés dominées par les femmes. Et donc, le niveau de partage ou de communauté de notre ADN avec les bonobos est le plus élevé qu'on puisse trouver dans le règne animal. Donc, ce sont nos cousins les plus proches. Et ces cousins les plus proches sont systématiquement des sociétés matriarcales.
Pouvez-vous justement expliquer comment certaines cultures matriarcales ont intégré la figure de la déesse dans leur structure sociale et religieuse?
Alors, évidemment, on peut imaginer que dès que l'homme a pris le pouvoir, il a transformé ce pouvoir en sorte de justification de son propre pouvoir. Et c'est là où on voit apparaître les figures de reine-mère, de figures du rôle de la première épouse ou de la reine, etc., qui d'ailleurs survivent dans beaucoup de sociétés, hein, mais qui sont maintenant un tout petit peu folklorisées en quelque sorte. Ces rituels de fécondité, de fertilité, on en voit encore dans les grandes villes. À Dakar, de temps en temps, on voit des rites de fertilité dirigés par des femmes qui entrent dans la mer et pour demander un hivernage précoce, une bonne récolte, que les femmes soient enceintes et porteuses d'enfants, etc. Mais c'est devenu marginalisé et même folklorisé. Donc on peut dire que le pouvoir des femmes a été recyclé entre les mains des hommes, qui en ont fait un instrument de leur propre pouvoir et de leur propre domination. Mais on peut imaginer que, on peut estimer plutôt, qu'à peu près un tiers des sociétés humaines, toujours à l'heure actuelle, donne une certaine importance religieuse, politique et sociale à la femme au-delà simplement de sa situation d'épouse ou de sœur ou de mère. Mais il est certain que, et en particulier avec les systèmes philosophiques et religieux qui dominent de plus en plus, qu'ils soient européens, chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, etc., et tous ces systèmes ont fortement réduit le pouvoir des femmes qu'ils ont transféré entre les mains des hommes. Avec un dieu créateur masculin, qui n'a donc plus besoin du corps de la femme pour créer quoi que ce soit, le pouvoir initial de la conception par la femme, qui est diminué symboliquement alors, en pratique et en symbole. Donc ça se traduit par un placement en second rang de la femme dans presque tous les domaines qu'on peut imaginer, qu'ils soient politiques, économiques, etc. Et même l'émergence de ce qu'on peut appeler un complexe de supériorité de la part des hommes et d'un complexe d'infériorité de la part des femmes.
Nathalie, la Bible contient-elle des références ou des allusions à une divinité féminine ou à des aspects féminins de Dieu?
C'est une excellente question, mais il faudrait d'abord qu'on soit d'accord que la perception est souvent sujette à des influences, surtout socioculturelles. C'est-à-dire qu'une personne qui lira la Bible sera extrêmement influencée parce qu'il a vécu. Donc, s'il vient d'une société assez patriarcale, il se sentir validé où il trouvera des parties, des versets bibliques qui vont le valider. Mais je reviens quand même à ces figures féminines de la Bible. Et je vais commencer par Ève. C'est une figure souvent qu'on oublie, mais qui représente l'image de Dieu au féminin, parce que c'est le premier être vivant qui a été créé à son image, à l'image de Dieu, et Dieu donne le ton. Donc il dit qu'il a créé Adam, il dit qu'il a créé Ève à son image. Ça veut dire qu'au travers de la personnalité de Dieu, Dieu a une partie masculine et aussi une partie féminine. ça peut un petit peu déranger, ça peut être bizarre, mais si on revient en relisant les Écritures, en méditant sur les Écritures, on remarque que Dieu mentionne que les premiers êtres vivants étaient créés à son image, donc en tant qu'homme et en tant que femme, et que Dieu ne renie pas cette féminité en lui. Une autre personne que je pourrais mentionner dans la Bible, c'est Déborah. C'est la première juge qui est mentionnée dans la Bible. C'est une femme extrêmement puissante au niveau influence, parce qu'elle a été juge en Israël pendant 40 ans. Donc au travers d'elle, c'est comme si Dieu validait la femme en lui donnant un pouvoir d'influence, surtout à une période quand même où les femmes étaient presque inexistantes au niveau du pouvoir en général. Une autre figure qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi Ruth, qui est une veuve moabite qui se trouve dans la généalogie de Jésus. Cette femme est venue comme une étrangère dans le pays d'Israël et Dieu valide cette présence même dans la généalogie de Jésus. C'est comme si Dieu, au travers d'elle, validait les étrangers, donc les non-juifs de l'époque. Ce qui va se confirmer plus tard dans le ministère de Paul. Paul dira qu'il avait reçu le ministère pour les non-juifs, comme Pierre avait reçu le ministère pour les juifs. Donc au travers de Ruth, c'est comme si Dieu validait son attachement avec les non-juifs qui s'attachaient à la loi de Moïse. Je parlais aussi de Rahab. Rahab est une femme qui est assez impressionnante quand même parce qu'elle a un passé particulier. C'est une prostituée. Elle est cananéenne. Donc, de par son statut de prostituée, de par le fait aussi qu'elle était étrangère, elle était doublement écartée de la vie d'Israël. Par contre, on retrouve aussi cette femme dans la généalogie de Jésus. Donc, au travers d'elle, c'est comme si Dieu validait... était capable de pardonner les gens et aussi était capable de faire des choses extraordinaires à partir d'une faiblesse d'une personne. On a souvent l'habitude de voir dans la Bible un Dieu qui intervient de façon puissante. Et cette intervention est surtout vue de façon masculine, parce qu'on voit l'homme comme quelqu'un de fort physiquement, de quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Mais au travers aussi de Rahab, on voit que Dieu peut traverser, peut faire des choses extraordinaires dans l'incognito, dans la faiblesse, dans des choses assez particulières, dans l'humain tout simplement, qu'on attribue souvent au côté féminin. On voit très bien qu'au travers de la Bible, il y a quand même une place de la femme qui a souvent été sous-estimée, qu'on ne parle pas beaucoup d'elle. Mais quoi qu'il en soit, elle a amené une perception différente, aussi un œil positif de Dieu sur la condition féminine.
Vous suivez le dialogue des religions. Nous explorons les divinités féminines qui ont existé dans diverses croyances à travers l'histoire. Professeur Mbodj, et quelles sont les autres implications sociologiques et psychologiques de vénérer une divinité féminine par rapport à une divinité masculine?
Il est certain que les sociétés qui sont confrontées à des difficultés souvent revisitent leur histoire. J'ai parlé tout à l'heure du fait que, par exemple, dans certaines sociétés africaines et même en réalité en Occident, parce qu'il y a des phénomènes assez importants comme une sécheresse, etc., on va retrouver des prières qui sont dirigées par des femmes, qui sont pratiquées par des femmes, etc., et qui sont donc remises, dépoussiérées et remises à l'ordre du jour. Mais c'est pour un temps, et à la limite, c'est un peu en désespoir de cause. Mais dans la plupart du temps, certaines sociétés ne font plus quand même pas confiance aux femmes. Sauf que, évidemment, maintenant, avec l'avènement de la démocratie moderne, une personne, une voix, et l'éducation universelle, etc., de plus en plus, il y a une émergence de la responsabilité de ces femmes comme acteurs politiques, mais aussi comme acteurs économiques, mais aussi comme acteurs sociaux, et qui font que l'égalité entre hommes et femmes devient une sorte d'impératif, et qui fait qu'on fait confiance de plus en plus à la femme, mais dans des domaines qui ne sont plus liés à sa biologie. Pour devenir chef d'entreprise, c'est de moins en moins lié à la biologie, par exemple. Et même dans les armées, et dans les forces de l'ordre, les femmes sont réintégrées, alors que dans la tradition certainement millénaire ancienne, les femmes participaient effectivement à ces postes de défense, quelquefois même de façon prééminente, comme dans l'ancien royaume du Dahomey. Mais d'une manière générale, il y a cette sorte d'égalité où le genre homme ou femme n'est plus important pour occuper certaines fonctions. Donc il y a cette sorte de réhabilitation de la femme, mais dans le contexte de lui faire pratiquer ce que les hommes pratiquent, plutôt que de spécialiser la femme dans des domaines où peut-être elle aurait pu mieux exceller, si on peut parler ainsi.
Frida, comment les rôles des femmes dans le Coran et les hadiths influencent-ils la vision des croyances sur le féminin sacré ou divin?
Avant de vous répondre, je citerai Homero Marunkun Peria, qui dit que le Coran s'inscrit dans la réalité d'une société patriarcale où ces rapports de domination existaient déjà. C'est-à-dire que toute l'approche que semble avoir l'islam sur que l'islam pourrait être une religion qui opprime les femmes, que la femme musulmane vivrait en marge de la société, dans une situation d'infériorité dominée par l'homme et empêchée d'évoluer, on voit bien là qu'il y a des exagérations et des clichés, sans toutefois nier les appropriations malvenues faites du Coran par les humains. Donc tout ce contexte compte énormément. Mais en fait, que dit l'islam au sujet de la femme, surtout que le Coran lui consacre la sourate numéro 4, qui est la sourate des femmes, justement. Cette sourate établit effectivement un espèce de code de jurisprudence, des rapports entre une femme, surtout mariée, dans la société. Alors c'est aussi bien en matière d'héritage qu'en matière de veuvage, qu'en matière de remariage. Bref, différentes choses qui continuent pas forcément à faire jurisprudence, sauf peut-être la question de l'héritage et de l'adoption également. Mais aujourd'hui, il faut un peu prendre du recul. La femme dans le Coran a un statut qui est tout à fait honorable, elle est respectée tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Le Coran affirme l'égalité sur le plan spirituel entre hommes et femmes. Sur le plan de la vie en communauté, il reconnaît aux femmes des droits et une protection dûment codifiée, bien sûr, mais qui mettent fin, en fait, à un état d'infériorité. L'islam a aussi permis le passage de la famille patriarcale dans l'acte où la femme n'a aucun droit à la famille conjugale dans laquelle elle est la moitié du couple. Omar, le deuxième calife bien guidé, exposait lui-même « Avant la venue de l'islam, nous n'avions pas de considération pour les femmes. Puis lorsque vint l'islam et que Dieu Tout-Puissant évoqua leurs droits, nous-mêmes, nous nous mîmes à comprendre qu'elles avaient des droits sur nous. » C'est tout dire. Donc le Coran et l'islam consacrent cette égalité entre hommes et femmes. Ils sont pareillement les lieutenants de Dieu sur terre. Tous les versets coraniques relatifs aux droits et aux devoirs de l'homme concernent également la femme. D'ailleurs, pour que les choses soient claires, il est plus souvent écrit « les croyants et les croyantes » que « l'homme ou la femme » ou « le croyant tout seul ». La révélation s'adresse donc à tous, sans aucune distinction de race, de sexe, de condition sociale. En matière religieuse, le Coran n'établit aucune supériorité de l'un par rapport à l'autre. Le seul critère retenu est celui du comportement et de la piété. C'est à cet homme que les humains sont appréciés et seront jugés par Dieu. Tout croyant, homme ou femme, qui fait une bonne action entrera au paradis, révèle une sourate. À cette égalité, le Coran ajoute une complémentarité entre l'homme et la femme qui sont, quand il s'agit d'un couple, un vêtement l'un pour l'autre. Donc c'est en même temps une protection, en même temps une présence, en même temps une complémentarité. Voilà, cette distinction s'impose entre la religion musulmane et les coutumes et les pratiques habituelles qui sont très éloignées des prescriptions islamiques. Les fausses attributions, par exemple, on attribue à l'islam la burqa et le tchador, qui sont des coutumes locales, afghanes et perses, qui n'ont rien à voir avec la religion. Le voile lui-même n'est pas une prescription stricte et précise. Il était bien présent dans l'Antiquité, dans toutes les civilisations, au moins autour du bassin méditerranéen. Certains évoquent l'excision qui n'est jamais citée dans le Coran, et qui est une pratique tribale africaine, et la polygamie qui n'a pas été initiée certes par l'islam, qui au contraire l'islam y a peut-être mis un demi-terme sans y mettre fin totalement, en imposant des conditions très, très strictes à la polygamie et en imposant un nombre fini d'épouses possibles, c'est-à-dire 4. Donc le pouvoir à cela se rajoute à une autre dimension qui est très particulière à l'islam, c'est le statut de mère. Le pouvoir des mères est incontestable. Sous leur pas est le paradis. Il ne s'agit pas de ne pas prendre en considération les autres femmes, mais d'inciter à se référer à la sagesse d'une mère comme on le ferait à celle d'un père. Ces femmes-là, souvent devenues veuves, souvent sont toujours très présentes dans la vie familiale et leur avis compte. Comme compterait dans les sociétés occidentales l'avis des personnes âgées. On a bien vu, rien qu'au niveau des royautés, le rôle des souveraines qui ont régné et qui ont après été même assuré l'intérim de leur fils. Les réformistes arabes qui ont œuvré à l'émancipation de la femme sont souvent des juristes, comme Qasem Amin en 1919, ou des théologiens comme le Tunisien Fadl Ben Achour ou son compatriote le penseur Tahar Haddad. Mais tous sont à l'origine des hommes de religion, et donc ce qui fait que c'est leur lecture, l'ijtihad qu'ils ont mis à lire le Coran et en faire une interprétation juste, équitable, qui les a fait aboutir au réformisme moderne arabe. Et c'est là un fondement essentiel pour expliquer comment fonctionne un pays comme la Tunisie qui donne de larges droits à la femme. Et par opposition, on voit bien sûr prospérer des courants extrémistes qui ont des conceptions farfelues de l'islam, extravagantes même, notamment en ce qui concerne la femme. Mais dans tous les cas, c'est la sagesse et le fondement reste cette perception de la femme égale de l'homme, avec dans un islam de lumière, un islam équitable, et on ne cessera de le dire, mais même mieux que de le dire, on le pratique effectivement. Il y a dans les familles, on le ressent bien, ce côté réformiste qui est très très présent. On n'en parle pas tous les jours, mais il est dans les actions, dans les prises de position et dans le quotidien. Il ne s'explique plus. Il est en fait avéré un atavisme, tout simplement.
Merci. Professeur Mbodj, et quels sont les traits communs et les différences notables dans la façon dont les divinités féminines sont représentées dans diverses traditions religieuses?
Alors, évidemment, nous avons déjà dit qu'elles sont donneuses de vie, puisqu'elles enfantent les enfants. Ce sont les mères de l'humanité et de la vie d'une façon générale. Et souvent, c'est associé aussi à la divinité des eaux. Donc les eaux, évidemment, c'est l'élément essentiel de l'être humain. C'est l'élément le plus important dans sa constitution. Et en particulier aussi, on peut imaginer évidemment que la fécondation est dans un élément liquide. Donc on peut facilement comprendre que les patronnes de l'eau soient des femmes, soient des déesses. Mais aussi, que sont les déesses de la terre, parce que c'est la terre qui produit les plantes et qui littéralement accouche de la plante lorsqu'on y met une semence. Et là aussi, il y a une analogie avec la morphologie, la biologie féminine. Et donc, là aussi, c'est très fréquent de trouver cette association avec les divinités féminines. Et d'une manière générale, ce qu'on peut appeler l'abondance, la richesse, évidemment, surtout dans les sociétés agraires, où l'accumulation des récoltes signifie l'abondance, la survie du groupe. Et donc, c'est très stratégique d'avoir des divinités féminines à ce niveau-là. Et donc, la femme ici, c'est la mère, c'est la déesse mère, c'est la qui donc favorise la survie de la société. Cependant, et très rapidement, donc à partir du néolithique, on assiste à une sorte de diptyque ou de biface où les déesses de l'amour et de la fécondité sont en même temps des déesses de la guerre.
Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions qui nous a voyagé dans l'histoire et les traditions de ces communautés pour mieux comprendre l'impact profond de la figure de la déesse sur leur organisation et leur vision du monde. Nathalie Nyamoya, merci d'être avec nous.
Merci encore une fois, Eric, pour ton invitation.
Frida Darmani, merci pour votre contribution.
Merci beaucoup de m'avoir fait participer à cet échange très très fructueux. Au revoir.
Professeur Mohamed Mbodj, merci pour votre expertise.
Merci beaucoup.
Eric Manila-Kiza vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine.